Bonjour et bienvenue chers banquettistes. Et oui, je suis déjà de retour pour votre plus grand plaisir. Et ça va être le cas pour tout ce mois de septembre puisqu'on sortira un épisode du Tour de France des clubs chaque jeudi. Alors la semaine dernière, on a abordé les cas d'Amiens, Angers, Bordeaux, Caen et Dijon avec des journalistes de presse quotidienne régionale et rebelote cette fois-ci avec, dans l'ordre, Guingamp, Lille, Lyon, Marseille et Metz. Bon, sans faire injure au club de l'épisode 1, on s'attaque cette fois-ci à de gros morceaux puisqu'on va parler du nouveau club de Bielsa et de deux des favoris à la troisième place. Ouais, puisque bon, on le sait, hein, les deux premières, elles sont réservées au PSG et à Monaco. Alors pour faire un état des lieux et avoir toutes les informations sur la saison à venir, je serai accompagné d'Hervé Bride, journaliste au Télégramme et sur Europe 1 qui suit l'En Avant Guingamp, de Jean-Baptiste Alloire, qui s'occupe de Lille pour le compte de France Football notamment, de Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, ancien invité et parrain de banquette, je vous invite d'ailleurs à aller écouter son épisode, qui est un, comme chacun sait, grand spécialiste de l'OL, d'Alexandre Jacquin, qui couvre l'actualité de l'Olympique de Marseille pour la Provence, chez qui il est chef adjoint du service des sports, et enfin d'Angelo Salemi, journaliste au Républicain Lorrain, pour qui il s'occupe du FC Metz. Comme d'habitude, les questions seront les mêmes pour chaque journaliste, et on tentera de savoir comment ils évaluent l'effectif actuel, quels sont les points forts et faibles de l'équipe, ou encore comment ils voient la saison à venir et à quelle place ils pensent la terminer. Allez, envoie le générique, Pat Le Guen.
Régalez-vous.
De la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà.
Non, je n'ai pas touché.
Et déjà de gauche.
Non.
On va prendre maintenant la direction de la Bretagne avec un club cher à Johan Rioux et Valérie Damido aussi, puisqu'on va parler de l'En Avant Guingamp. Et pour ça, je vais appeler Hervé Bride qui travaille pour le Télégramme. Salut
oui,
Hervé.
Bonjour. Oui, bonjour.
Comment ça va ?
Eh bien, ça va pas mal.
Bon. Avant de commencer, je voudrais savoir depuis combien de temps est-ce que tu travailles pour le Télégramme et depuis combien de temps tu suis Guingamp ?
Alors, je pourrais être très précis. Hein. Je suis correspondant d'Europe 1 et je fais les multiplexes d'Europe 1 avec Guingamp depuis 6 ans, depuis 2011. Lorsque je suis arrivé en Bretagne, je me suis occupé de Guingamp parce que j'étais ailleurs à Paris.
Tu connais bien le club ?
Je connais bien le club, je suis son syndic de presse en plus. Donc,
Tu vois ?
Je suis bien introduit dans le milieu.
Comme quoi, j'appelle pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel ?
Écoute, si je m'en tiens à ce que j'ai vu contre le Paris Saint-Germain et contre Strasbourg, les deux premiers matchs à domicile, j'ai un peu regardé les matchs à la télé aussi, je suis inquiet. Inquiet parce que je trouve que l'équipe ne s'est pas renforcée, qu'elle n'a pas forcément gagné en qualité et que elle avait besoin de faire venir des attaquants. On en parlera peut-être un peu plus loin, mais je suis dans l'immédiat inquiet. Je suis pas totalement satisfait de ce que j'ai vu. Attends, l'avenir me donnera peut-être tort. En tout cas, je le souhaite. Hein.
Oui, parce que les départs importants, c'était plutôt en défense qu'il y a eu cet été.
Oui, j'ai pas aimé le départ de Marseille, mais on le savait parce qu'il avait été prêté par Porto. Enfin, par Benfica, très exactement. Et il n'y avait pas d'option d'achat. Ils ont essayé de se mettre sur les rangs, mais ils n'ont pas pu s'aligner sur une équipe comme Lyon, qui a finalement été le morceau. Je crois que c'est la grosse perte, parce que Marseille, lui tout seul, je crois qu'il a 7 ou 8 buts en passe décisive la saison dernière. C'est quand même hyper important.
Oh, il a fait une grosse saison.
Il est remplacé par un autre joueur, Rebocho, qui lui aussi est portugais, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit de la même qualité, même s'il est trouvé relativement bon.
Bon, et donc le départ qui fait vraiment mal pour toi, c'est plutôt celui-là, c'est plutôt Marçal.
Ah oui, 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 parce que pour le reste, Alexandre Mendy qui est parti à Bordeaux, je pense pas que ce soit une perte difficile à compenser. Je n'imagine pas non plus que Sanko, qui était là depuis des années et qui avait jamais fait son trou complètement, même s'il était précieux quand il rentrait, et qui est parti à Caen, soit une grosse, grosse perte. Le départ de Depo, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. je suis méchant. Bonne mère aussi, d'ailleurs, je leur souhaite bien du plaisir à Amiens. Les départs de Lévesque et Lemaître, ils étaient à bout de souffle physique. Hein. Ils avaient beaucoup souffert de blessures à répétition. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux noms qui me fassent flipper là-dedans.
Il n'y a pas une arrivée tu penses peut faire du bien. Tu vois, par exemple, je ne sais pas moi... Il y a Tabanou qui est censé apporter
d'accord.
quand même.
Franck Tagen, c'était bien Franck. C'est un bon joueur, il vient de Swansea, il a été blessé longuement, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Il est en phase de remise en forme. Mais c'est plus un poulet de l'année non plus.
Bien sûr.
Et donc, oui, c'est ça. Donc, c'est pas lui. Alors, il est capable de jouer dans le couloir gauche, mais je suis pas convaincu que ce soit lui qui va être celui qui va dynamiser complètement le jeu de l'équipe. On va jouer à son rythme. Donc, à part ça, il y a Marcus Thuram, le fils d'eux, et qui arrive de Sochaux, que j'ai vu plutôt bon, puissant, devant. Bah, ça va pas être un cadeau quand on sait des équipes qu'il a rencontrées avec des effectifs renforcés. Et puis le jeune Camara qui arrive de Derby County. Bon, c'est pareil, Abdoul Camara, 27 ans, il est passé par des clubs de Ligue 2, comme Angers par exemple. Et bon, j'ai pas trouvé que c'était un garçon qui était capable d'apporter un vrai plus à l'équipe. Donc c'est pour ça que je suis inquiet.
Mais du coup, là, dans l'effectif actuel, pour toi, c'est qui le joueur le plus important de l'effectif?
Je vais surprendre beaucoup de monde, mais peut-être pas ceux qui regardent l'équipe. Christophe Kerbrat, le défenseur de Plabec, breton, taiseux, qui aime pas les micros, mais qui parle quand même, qui est infatigable, indestructible, et chaque fois qu'il tombe, il se relève, blessé, pas blessé, il joue. C'est quand même lui, pour moi, la valeur sûre, avec les capitaines Jimmy Briand, mais qui commence aussi à compter les années maintenant, et donc physiquement,
ça devient... Il est plus tout jeune, ouais.
Bah non, il est plus tout jeune. Donc, c'est un joueur, comme on dit, de vestiaire, un vrai capitaine. Sur le terrain, il assure, hein. Mais il y a des moments où on le sent un peu, on les limite, il n'y a plus la même pointe de vitesse. Il n'a plus la même réactivité. Puis, il y a des moments où il a besoin de récupérer pendant le match. Donc, si tu veux, c'est pas brillant, c'est gentil, c'est formidable de l'avoir, mais il faudrait qu'il ait des gens autour de lui. Or, je les vois pas.
Et donc, du coup, alors. On va essayer d'éviter que les fans de Guingamp se suicident tout de suite. C'est quoi, pour toi, les points forts de l'équipe?
Alors, le point fort, et ça va faire là encore sourire, parce que Yanis Salibur, qui devait s'engager avec Saint-Etienne et qui avait un bon de sortie, qui aurait dû partir en Angleterre au mois de janvier, au dernier mercato, pour 10 ou 12 millions d'euros, c'était une aubaine pour le club. Il n'a pas fait une saison de tonitruante, une fin de saison tonitruante, mais enfin, c'est resté une valeur sûre. Il a failli aller à Saint-Etienne et il a, de près ce que j'en sais, eu des exigences financières de dernière minute, ce qui fait qu'à 23h55, juste avant la clôture du mercato, les deux parties ne se sont pas mises d'accord. Donc
c'est
il est rentré
entendu aussi.
À Guingamp et le voilà qui va se retrouver peut-être comme la bonne recrue, parce que pour moi, dans mon esprit, il était déjà parti. Alors espérons qu'il va se remettre en forme, parce que ses derniers matchs, les quatre derniers matchs qu'il a fait, ça m'a pas enchanté comme l'année dernière.
Et parce qu'il faut rappeler quand même
que peut-être que ce sera la bonne nouvelle.
Il faut rappeler qu'Yanis Salibur, à l'époque du centre de formation de Lille, où il était avec Eden Hazard, c'était censé être le plus fort des deux. C'est
oui,
comme ça que les gens, les formateurs le voyaient.
Ouais. On voit où est allé le premier et où est allé le deuxième.
Bon, et du coup, alors je pense que tu seras un petit peu plus prolixe sur les points faibles. C'est quoi?
Alors les points faibles, c'est en milieu de terrain où je trouve que là il y a vraiment un problème de génération. Ils ont fait venir un jeune joueur qui est un Sud-Africain qui s'appelle Lebogande Piri. On va oublier son prénom. On va dire Lebo. Il a 22 ans. Il était à Brøndby l'année dernière. On nous l'a présenté comme un joueur plein d'avenir. Moi je veux bien. Il a un tout petit gabarit, mais je l'ai trouvé plutôt passif dans ses derniers matchs. Plutôt subissant le jeu qu'apportant un véritable plus. Donc là, c'est pour moi, c'est une faiblesse, d'autant que cette équipe de Guingamp ne brille pas là non plus par l'âge de ses capitaines, des joueurs autour. Quoi. Lucado, moi je veux bien, mais quand je suis méchant, je dis que c'est un wagon de marchandises. il faut du temps pour faire transfert, quoi. Quand il part avec 2 mètres d'avance, le défenseur qui le rattrape, il lui faut 5 mètres. Quoi. Donc c'est un peu gênant. Et puis il y a Dido qui avait fait une saison en demi-teinte, mais vu des problèmes perso, il a l'air d'aller mieux. Mais là non plus, c'est pas un gamin. Donc je suis inquiet pour le milieu de terrain. Et j'ai trouvé que contre Strasbourg, c'est là qu'ils avaient pêché très fortement.
Donc un gros
Alors,
problème de vitesse.
Heureusement.
En gros.
Ouais, un problème de vitesse. Heureusement, il y a Moustapha Diallo qui est un numéro 6, qui joue comme un numéro 10 ou comme un avant-centre. Alors lui, il a maintenant quartier libre, on lui dit vas-y, tu peux sortir de ta défense et tu vas où tu veux. Ben il marque, il a une grosse présence physique, sauf qu'il prend des cartons autant que tant de fonctionnement de match, il a des cartons à tous les matchs. Et puis c'est un teignus, hein, mais bon, ça suffit pas. Donc je trouve que l'effectif en général reste relativement léger quand même.
Mais est-ce qu'un des gros points faibles, en tout cas c'est ce qui était le cas la saison dernière, c'est pas les matchs à l'extérieur justement, parce que l'année dernière, Guingamp finit 17e à l'extérieur alors qu'ils sont 5e au Roudourou.
Oui, oui, mais bon, alors ils ont la chance d'avoir, et on a la chance, parce que quand on est dans le stade et qu'on vit avec l'équipe, comme je le sais, on est heureux de trouver le meilleur public de France, la meilleure pelouse de France, un vrai stade de football rempli à chaque match, une ambiance extraordinaire. Et ça aide les joueurs. Mais enfin bon, si on veut passer un cap, il faut quand même imaginer qu'on va aller grappiller des points à l'extérieur. Alors, heureux et miraculeux peut-être, je ne sais pas, ils ont gagné à Metz. Pour le premier match, ils sont allés gagner 3-1. C'est déjà ça de fait. Ils vont pas rester bredouilles pendant toute la saison comme la saison dernière. Enfin, c'est pas ça qui va non plus nous faire monter au créneau en disant chic, ça y est, on tient une grande équipe, hein, sûrement pas.
Et du coup, alors, c'est quoi les ambitions pour la saison à venir, d'après toi ?
Alors, spécialiste de la Coupe de France, et des coupes en général, mais de la Coupe de France, 2 victoires quand même, pour pas l'oublier, et c'est récent. Mais cette année, avec les grosses écuries qu'on connaît, le PSG qui va tout rafler, Monaco et Lyon qui va se partager les miettes, Guingamp, s'ils arrivent en quart ou en demi-finale, si le tirage leur est favorable, ils peuvent espérer faire un petit coup en coupe, mais de là à la gagner ou même d'aller en finale, ça me paraît très compliqué. Je vais en dire la même chose d'ailleurs de la Coupe de la Ligue, où ils échouent régulièrement en quart ou en demi-finale. Qu'est-ce qui reste ? Bah, une place autour de la 12e en championnat. L'an dernier, c'était extraordinaire. Ils ont fait une saison magnifique, surtout au début. Mais là, je sais pas, je sens pas. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais à d'habitude, je me trompe pas trop quand même. Donc, je ne les sens pas comme pouvant être une équipe trouble faite. Mais par contre, à domicile, ils seront solides et ils vont être difficiles à bouger. Donc, ils ne vont pas descendre, certes, ils ne vont pas se trouver au-delà de la 15e place, mais entre la 10 et la 15, mais sûrement pas mieux.
Bon, il y a quand même une lueur d'espoir, tu vois, parce que tu es inquiet, mais bon, ça finit tranquillement dans le ventre mou. C'est déjà ça.
Ouais, mais bon, est-ce qu'on peut se contenter de ça, même si c'est un des plus petits budgets, à peine un peu moins de 30 millions d'euros.
Ouais, c'est le 18e budget.
C'est la plus petite ville de France, avec 3 fois plus de spectateurs qu'il y a d'habitants dans la commune. Et comme tout le monde ne va pas au match, ça veut dire que les gens viennent de partout pour aller au match à Guingamp. Mais je ne suis pas convaincu que... On a envie de vibrer pour quelque chose, de se donner des objectifs. Que vient de faire le Paris Saint-Germain, ce qu'a fait Monaco et refera encore, et Lyon qui a l'air de s'être bien renforcé. Ça nous ferme des objectifs, des perspectives. Je ne sais pas si tu vois. On se dit tous les horizons sont bouchés. Alors on va jouer, certes, mais est-ce qu'on ne va pas avoir une forme de lassitude au bout d'un moment en disant on joue pour des accessites, hein, et des petits accessites.
Ouais, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment le but de Guingamp, on va dire, de jouer l'Europa League toutes les saisons ?
Non, mais ils y ont goûté. Hein. Ils ont été bons d'ailleurs quand ils ont joué l'Europa League. Alors, ils aimeraient bien trouver un moyen d'y retourner un jour, parce que c'est quand même, si on n'a pas d'ambition, si c'est juste le plaisir de dire qu'on a un beau stade, une belle pelouse, la plus belle pelouse de France, à mon avis, c'est bien, hein, c'est formidable. Mais est-ce que ça suffit pour contenter? Moi, je vois les supporters, je les côtoie régulièrement. Pour l'instant, ils vibrent, ils sont calonnes, ils sont tout ce que vous voudrez. Le calonne, c'est le cœur, hein, c'est les fameux actionnaires. C'est bien, mais à un moment, j'ai peur qu'il y ait une lassitude qui s'installe et que tout on se détache, parce que c'est comme une grande histoire d'amour, hein, il faut passer un cap. Hein. Il y a déjà eu 5 saisons de réussite en Ligue 1, ce qui est formidable. Espérons que la 7e année, souvent fatale dans les mariages, ne soit pas de la même peine pour en avant de Guingamp.
Et pour finir, l'anecdote la plus marrante que tu as vécue depuis que tu suis le club, c'est quoi ?
Ah bah, la plus drôle, c'est celle qui nous occupe en ce moment, alors, parce que des anecdotes marrantes, il y en aurait. Mais je ne sais pas si vous avez vu, les uns et les autres, comment notre président, Bertrand Desplat, s'en est pris gentiment, mais quand même, à Jean-Michel Aulas. Et alors aujourd'hui, je vois, Desplat est un vilain personnage sur le plan humain, il n'a jamais rien créé, il profite des performances des autres, c'est qu'il est insignifiant, etc., etc. Figurez-vous que le prochain match, c'est contre septembre, Lyon. Et c'est à Lyon. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'amuse, parce que je les connais bien tous les deux. Je connais Olaz depuis plus de 30 ans que je suis dans le métier. Je connais Bertrand, qui est un garçon adorable. Je me dis que les retrouvailles vont être absolument fabuleuses. J'y serai malheureusement pas personnellement, mais j'aimerais bien savoir, je suis souri pour voir ce qu'il va se dire. Je crois que ça va être épique, cette histoire-là. Et c'est ça qui m'amuse le plus. C'est ce qui m'amuse, parce que le passé,
Il y a plein d'anecdotes à raconter, mais enfin, celle-là est trop drôle. Je la trouve vraiment trop drôle.
Et vraiment, pour terminer, même si je pense savoir ce que c'est, un mot pour définir la saison à venir pour toi ? Un seul mot ?
Espoir.
Ah, tu vois, je pensais que t'allais me dire inquiet.
Non, espoir.
Eh bien, écoute, Hervé, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Je t'en prie.
Tu as bien parlé de Guingamp. Et tu nous as, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, je pense que grâce à toi, ils auront un œil plus aguerri sur l'En Avant Guingamp.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, à très bientôt. Bon, comme vous l'avez entendu, Hervé est un petit peu inquiet pour la saison à venir. Alors, je ne partage pas cette inquiétude ni ce pessimisme. Alors, j'ai bien compris qu'il avait peur pour les 7 ans hein, dans le mariage Guingamp-Ligue 1. Je pense qu'il y a trop de talent dans cette équipe, notamment offensivement, avec Jimmy Briand, Marcus Thuram, Coco, Salibur, même Blas sur le banc, qui est un très bon jeune, pour flirter avec la relégation. Mais pour finir, voilà, aux alentours de la 10e place, je pense que ça devrait le faire sans trop de soucis. Ils ont un bon entraîneur, un bon 11, voire un très bon 11 pour cette zone de tableau-là. Donc ça devrait être une saison plus que correcte et tranquille pour Guingamp. Et on prend maintenant la direction du Schnorr pour aller parler du club du fantasque et fantastique Marcelo Bielsa, qui a eu, on va dire, c'est un club qui a connu beaucoup de changements cet été. Et pour se dépatouiller un petit peu dans tout ça, je serai accompagné de Jean-Baptiste Alloire, qui suit Lille pour le compte de France Foot. Donc bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour. Merci, bonjour à tous.
Merci d'être présent et de nous aider à y voir un petit peu plus clair dans le bourbier lillois.
On va essayer.
Alors, pour commencer, depuis combien de temps est-ce que tu travailles pour France Football et depuis combien de temps tu suis le club ?
Je crois que ça fait 3 ans que je suis le LOSC pour France Foot. Je mets les notes aux joueurs à l'issue de chaque rencontre à domicile. Là.
D'accord, donc depuis 3 ans. Voilà. Donc tu connais un petit peu le club, on va dire. Tu connais les arcanes du LOSC.
Et je suis le LOSC depuis, on va dire, depuis 2000, depuis 98 même.
Ça commence à dater.
Voilà. Ça commence à dater, ouais.
Bon, alors, puisque tu suis le club, pardon, depuis, on va dire 17 ans, qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel ?
L'effectif actuel, pour moi, il est de qualité. Il est de qualité, ça, il n'y a pas tortiller. Le seul souci, c'est que maintenant, il va falloir que Marcelo Bielsa trouve la bonne compo, réussisse à trouver les meilleurs, réussisse à faire la meilleure équipe. Parce que jusqu'à présent, bon, on a vu un début de championnat apparemment pas mal contre Nantes. Mais il faut quand même nuancer, c'est que face à cette équipe de Nantes, les Lillois ont quand même rencontré une opposition qui elle-même, enfin cette équipe de Nantes est également en pleine reconstruction. Et on a vu là pour les journées suivantes, face à des équipes déjà bien en place et bien rodées, bon, ils ont eu quand même beaucoup plus de mal.
C'est un peu plus compliqué, oui. Mais c'est vrai que cet été, il y a eu énormément d'arrivées et de départs. Donc après, ça peut...
Moi, j'étais en vacances et il n'y avait pas une journée où mes amis m'appelaient ou me disaient « Tiens, ils ont encore fait signer un nouveau joueur. » Et c'est vrai que je crois qu'il y a eu une dizaine d'arrivées au LOSC. Et puis, quand le début de la saison a démarré, enfin, quand la reprise a démarré, ils ont quand même trouvé le moyen de mettre 10 joueurs, enfin 11 joueurs exactement, dans un LOSC. Donc ça veut dire qu'il y a eu énormément de mouvements cet été. Et quand la reprise a sonné, il y a eu quand même 11 joueurs qui sont retrouvés dans un loft. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment toute l'équipe de l'an dernier qui a sauté avec l'obligation, la nécessité pour Marcelo Bielsa de reconstruire une équipe de A à Z. Qu'il a fait, qu'il a eu toutes les cartes en main avec la possibilité de choisir les joueurs qu'il souhaitait intégrer dans le club. Et on l'a vu avec une dizaine d'arrivées. Quoi.
Puisque tu parlais de départ, pour toi, c'est lequel, celui qui fait le plus mal au club ?
J'ai pas envie de dire qu'il y a un départ qui fait peut-être plus mal que les autres, hormis le dernier, hein, de Préville, qui était peut-être le joueur le plus en forme au LOS, en tout cas celui qui pouvait terminer les actions depuis le début de saison. Mais c'est un tout. C'est un tout. C'est quand on se sépare de la moitié de l'équipe comme ça, enfin même de la totalité de l'équipe, il y a tout un tas d'automatismes à recréer, une dynamique à reconstruire, et c'est ça qui manque au LOSC pour le moment, cette bonne dynamique. Même si on l'a vu pendant les matchs amicaux, il n'empêche que la compétition officielle c'est autre chose, Et on l'a vu face à Caen, face à Angers, des équipes qui étaient quand même qui sont bien structurées. Bah, les Lillois ont eu beaucoup de mal à exister. Hein.
Et à contrario, donc dans les arrivées, pour toi, c'est laquelle la plus importante, celle qui va faire vraiment du bien à l'équipe?
Pour le moment, on a vu aucun joueur se détacher vraiment depuis le début de saison. Alors il y a des joueurs qui ont été salués, je pense à Maya, hein, que les Lillois ont réussi à enlever à des grosses cylindrées. Mais bon, pour le moment, on l'a pas encore vu réellement dans ses œuvres. Et je pense que lui ou encore Arroyo, tout ça, ça sera en tout cas deux des joueurs à suivre cette saison.
Et tu le disais, donc oui, c'est vrai que l'effectif par rapport à l'année dernière a totalement changé. Et,
il a complètement changé, ouais.
Voilà,
on connaît quasiment plus un seul joueur,
c'est ça.
Hormis, j'ai envie de dire, Amadou et Benzia.
C'est
les
ça.
Seuls qui ont survécu. Ils ont peut-être survécu parce qu'ils sont jeunes.
Mais justement, il y a des vieux qui sont partis, dont le taulier Rio Mavuba. Et maintenant, pour toi, c'est qui le joueur le plus important de l'effectif? Pas nécessairement le meilleur, mais celui qui vraiment est le plus important, qui va souder le collectif ou toutes ces petites choses-là.
J'ai envie de dire, ça sera Amadou. Hein, Bielsa a donné le capitanat au milieu de terrain lillois. Hein, c'est lui qui a récupéré le brassard. D'ailleurs, il en était tout surpris. Mais c'est peut-être lui à qui on va demander de faire le lien entre le LOSC d'hier et le LOSC de demain. Et pourtant, il est jeune, mais il a ses responsabilités sur les épaules et il va devoir jouer cette saison avec ce poids sur les épaules. Et on l'a vu, hein, avec pour lui aussi, cette nécessité de pouvoir se remettre en question. Puisque lui, qui est milieu de terrain défensif, il s'est même retrouvé en défense centrale. Donc c'est un joueur sur qui Bielsa compte énormément. Et il va devoir justement pouvoir répondre au présent.
Puisque tu parles de Bielsa, est-ce que ce serait pas le point le plus fort de l'équipe? Quand tu fais l'état des lieux vraiment et savoir quels sont les points forts de l'équipe, est-ce que la vraie valeur ajoutée, plutôt que les 452 joueurs qui sont arrivés, c'est pas Marcelo Bielsa?
Ah bah Bielsa, c'est sûr, c'est un peu la star de l'équipe. C'est sur lui que les caméras sont braquées à chaque début de rencontre. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de joueur star qui se dégage du LOSC, mais c'est surtout son entraîneur. C'est lui qui est censé apporter au LOSC toute cette valeur ajoutée. C'est lui qui est censé faire décoller l'équipe avec ses méthodes. Là, pour le moment, bon, si contre Nantes c'était très bien, derrière le soufflet est retombé et on attend de voir la suite. Les supporters, je pense, ils sont quand même assez impatients et on espère le voir dès la réception de Bordeaux ce vendredi.
Et les points faibles de l'équipe pour toi, donc d'après toi, c'est quoi cette année?
Bah, c'est l'expérience. Il n'y a plus vraiment de cadre dans cette équipe. On l'a vu à Strasbourg. Maignan qui pète les plombs. À ce niveau-là, c'est interdit, ou c'est vraiment le manque d'expérience qui peut faire défaut à cette équipe. Et là, normalement, le 1er septembre, il y a les joueurs qui n'ont pas trouvé de point de chute, qui étaient dans le loft, qui sont censés réintégrer le groupe. Là, pendant ces 2-3 jours, j'étais pas là, donc j'ai pas trop suivi. Mais normalement, Enyama devrait retrouver le groupe. Alors, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche Vincent Enyama retrouver les buts du LOSC? Je ne sais pas, mais ce serait une bonne chose parce que c'est lui qui pourrait incarner cette notion de cadre dans le groupe qui peut manquer à cette équipe pour le moment.
Puis c'est un bon gardien aussi, accessoirement.
C'est surtout un très très bon gardien, ouais. Et c'est quelqu'un qui fédère autour de lui, qui pourrait apporter justement par son calme et puis sa pondération qui manque au LOSC pour le moment.
Et donc justement, avec ce manque d'expérience, avec cette équipe qui change totalement, comment est-ce que tu vois la saison à venir? D'après toi, quelle place peut finir Lille ou quelle place peut envisager Lille?
Alors ils ont comme objectif finir dans les 5 premiers. J'ai envie de dire, il faut être patient. Et c'est pas parce que le LOSC sera 10e ou 12e à la trêve, ce qui peut arriver, qu'il faudra forcément remettre en cause le projet lillois, parce que une saison c'est long. Et on peut imaginer justement les Lillois finir, il suffit pas grand chose, un petit déclic, une tactique bien comprise et puis une mise en place respectée pour que les Lillois enchaînent un certain nombre de succès et puis finissent dans les 5 premiers, pourquoi pas. Le foot est tellement bizarre ces dernières saisons qu'on peut tout imaginer.
Bon, et pour conclure, l'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis le LOSC, c'est quoi?
l'anecdote la plus drôle. Oh, faudrait que je réfléchisse un peu plus. Ouais, j'ai sorti un livre il y a quelques années sur les derbys de football entre Lille et Lens. Et j'avais demandé à voir Adil Rami. Adil Rami en aparté pour évoquer un des derbys qu'il avait disputé. Et en fait, on m'avait dit qu'il avait pas trop le temps, qu'il avait juste 5 minutes à me consacrer. Et donc, j'ai interviewé sur un banc à Luchin, comme ça, en 5 minutes, vite fait, bien fait, avec une petite photo arrachée vraiment comme j'ai pu. Et à l'arrivée, c'est un des témoignages les plus originaux et les plus drôles du livre. Et pourtant, c'est quelque chose qui était fait en 5 minutes, voire limite bâclé. Et finalement, ben voilà, c'est un petit peu cette anecdote que je pourrais éventuellement faire ressortir, quoi.
Voilà, comme quoi, il n'y a pas besoin de passer 3 heures avec quelqu'un pour que ce soit intéressant.
Ouais, surtout qu'on parle d'Adil Rami en ce moment, par Mons et par Vaud, donc voilà, c'est le petit clin d'œil, quoi.
Écoute, ça me va très bien. Et vraiment, pour terminer, si tu avais un mot, et j'ai bien dit un mot, pas une phrase, pour définir la saison à venir, ce serait quoi ?
Oser.
Ça me va. On va rester sur Osé. Je prends.
Voilà.
En tout cas, non, vraiment, merci voilà, de m'avoir accordé une petite dizaine de minutes pour voir un petit peu comment peut se passer la saison de Lille, ce qui a changé. Parce que bon, voilà, il y aura plein de gens qui vont suivre un peu plus Lille cette année que la saison dernière pour Marcelo Bielsa.
Ah bah donc, déjà, si, au niveau de la presse, hein, je fais le syndic également, les demandes, elles sont beaucoup plus fortes que l'an dernier. Ça, c'est une évidence.
Ah, donc si ça peut leur permettre de découvrir un petit peu l'envers du décor et d'apprendre 2-3 petites choses, bah, la mission est remplie, donc c'est parfait.
Et surtout, les Lillois sont sur un projet. Plus qu'un classement, c'est surtout un projet avec l'ambition de former des... En fait, Bielsa, il est arrivé au LOSC pour ça, hein, pour faire grandir les joueurs, pour les faire progresser. Mm. Et il faut espérer que cette progression passe également par des bons résultats. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça pour tous les clubs, avec un brassage important de joueurs, quoi. Il faut que les joueurs prennent leur marque et trouvent les bons automatismes.
Tu as bien raison. Écoute, en tout cas, donc, merci beaucoup.
Voilà, faut être patient. Mais est-ce que les supporters le seront, ça, c'est un autre problème.
Ah, ça, on fera un autre épisode pour savoir si les supporters ont été patients ou pas. Merci à toi. Ouais. Ça a été un plaisir.
Merci à toi, Tim. Ouais.
Et puis à bientôt.
Au plaisir, n'hésite pas. Bienvenue dans le Nord.
Alors, comme vous avez pu le constater, Jean-Baptiste est confiant, mais pas trop, parce que il se base sur Marcelo Bielsa qui parviendrait à créer un petit peu une osmose entre l'équipe, entre beaucoup de jeunes joueurs et beaucoup de jeunes arrivés. Et je partage un peu son avis. Pour le top 5, donc l'objectif annoncé, ça me paraît un peu compliqué avec d'autres gros cylindrés qui sont mis en place. Donc ça va être compliqué, mais finir aux alentours de la 6-8e place, ça devrait pas être trop problématique. Sauf si, parce que ça peut arriver, Marcelo Bielsa pète un câble en plein milieu de saison et s'en va. Et là, ça deviendrait un petit peu plus compliqué pour Lille. Mais bon, voilà, on va espérer que Marcelo Bielsa reste pour créer du spectacle dans cette bonne chère Ligue 1. Et que Lille finira dans les accessis européens entre la 6e et la 8e place. Et maintenant, on prend la direction du Rhône et du club cher à Jean-Michel Aulas, mais aussi à Vincent Duluc, qui nous accompagne cette fois-ci. Alors, Vincent Duluc, comme vous le savez, c'est un journaliste de l'équipe, c'est aussi un ancien invité de Banquette, je dirais même le parrain, puisque c'est le premier à avoir répondu présent à l'appel de Banquette. Et c'est, si vous ne l'avez pas encore fait, un des épisodes qui marche le mieux et qui a les meilleurs retours. Donc merci Vincent d'être revenu dans Banquette.
Avec plaisir.
Alors avant de commencer, même si bon, on le sait un petit peu, mais pour ceux qui n'ont pas la chance de le savoir, depuis combien de temps est-ce que tu travailles pour l'équipe et depuis combien de temps tu suis l'OL ?
Eh bien, ça fait plus de 22 ans que je travaille pour l'équipe et j'ai commencé à suivre Lyon quand j'étais au Progrès, donc à la fin de l'année 1987, oui, ou 88, non, 88, donc 87, pardon, donc ça nous fait 30 ans.
Et puis,
on
ne
dirait pas, mais oui.
Et puis surtout, ça te fait toute la présidence de Jean-Michel Aulas, ce qui est beau.
Voilà, je peux dire, je l'ai vu arriver.
Alors,
voir venir de loin.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, puisque tu connais extrêmement bien Lyon, qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel ?
Ben, c'est le premier mois de compétition m'a un peu surpris par rapport à ça, parce que je pensais vraiment que Lyon pourrait pas se remettre, du moins à un bon niveau, d'autant de départs importants, du départ de Lacazette, de Tolisso, de Donnarumma, de tous ces joueurs-là. Et j'ai l'impression que, avec un recrutement assez ciblé et pas idiot, bah, Lyon parvient à limiter les dégâts. Je pense que si Dardère avait pas été expulsé contre Bordeaux, Lyon aurait 9 ou voire 12 points. Donc voilà, je trouve que ça me surprend, mais ça a l'air de fonctionner quand même.
Ça te surprend, carrément?
Oui, ça me surprend parce que je voyais, enfin, je trouve qu'il y avait objectivement de quoi être inquiet. Lyon a perdu cet été, dans le désordre, Jallet, Nkoulou, Yang, Mamana, Ribus, Gonalon, Dardère, Tolisso, Lacazette, Guezal, Valbuena.
Ouais, ça fait du monde, hein.
Ça fait un monde énorme. Donc, pour n'importe quel club, j'allais dire normal, ça serait un immense problème. Il se trouve que Lyon, jusque-là, avait toujours mêlé politique de recrutement et politique de formation. Mais là, même si la formation continue, à l'évidence, la formation n'est pas prête à, on va dire, entamer un nouveau cycle tout de suite, du moins à assumer tout de suite les obligations du deuxième budget du championnat. Et c'est pour ça que la politique de recrutement a pris le dessus. Et comme ces deux ou trois dernières années, Lyon s'était un petit peu trompé dans le recrutement, mais il y avait de quoi un peu s'inquiéter pour l'été où justement la politique de recrutement allait être aussi décisive. Et là, les Lyonnais ont pris 8 recrues, c'est énorme, c'est quasi historique pour eux. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est globalement positif pour l'instant.
Et avant de parler des recrues, puisque tu parlais de vraiment l'immense vague de départ, pour toi, c'est lequel qui fait vraiment le plus mal ? Lacazette ?
C'est forcément Lacazette, parce que la saison dernière, c'est 37 buts, toutes compétitions confondues. Mais c'est aussi Tolisso, en fait, c'est ce duo-là qui représente 51 buts et à peu près 15 passes décisives. Et c'est ça qu'il faut remplacer. Donc oui, mais je pense que c'est quand même Lacazette. C'est quand même Lacazette. On voit très bien que malgré tous les efforts de Mariano, ça ne peut pas être la même chose.
Ouais. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Et dans le sens inverse, donc dans les arrivées, laquelle pour toi est pas forcément la meilleure, mais celle qui fait vraiment le plus de bien à l'équipe?
C'est celle qui plaît le plus à tout le monde, et à moi le premier, c'est Bertrand Traoré. Je trouve que c'est un joueur délicieux, créatif, subtil, intelligent, vraiment spectaculaire, vraiment une vraie belle recrue. Mais celui qui est sans doute le plus fondamental, c'est Marcelo. Ça fait tellement longtemps que Lyon cherchait un stabilisateur en défense centrale. Il semble l'avoir enfin trouvé. Alors, c'est pas quelqu'un qui est très, très rapide. C'est pas quelqu'un qui a une super relance, mais c'est exactement le joueur qu'il fallait. Voilà. C'est quelqu'un qui rend meilleur les joueurs autour de lui, qui les rend surtout plus calmes, plus sereins. Et là, la charnière Marcelo-Morel, elle paraît un peu improbable, mais
pour l'instant. C'est
au début. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui stabilise et qui montre qu'à ce poste-là, bah, l'expérience, ça fait beaucoup, beaucoup de différence. C'est Arsène Wenger, l'autre jour, qui racontait dans une conférence qu'il adorait faire jouer des jeunes défenseurs centraux de 20 ans, de 21 ans, mais que statistiquement, à 20 ans, 21 ans, bah, on coûte des points à l'équipe et que plus on avance dans l'âge, moins on coûte de points à l'équipe. Et donc, avec Marcelo Morel, bah, peut-être que Lyon va stabiliser ça. Et c'est important d'avoir de l'expérience quand même en défense centrale. Parce que là, a priori, le milieu, que ce soit Touzard ou les deux nouveaux venus, Papchek Diop et Tanguy Ndombele, ben les trois, ils ont 20 ans. Donc il y a quand même une zone axiale où il faut vraiment un peu d'expérience.
Mais donc du coup, le Marcelo, est-ce que avec donc vraiment le départ de beaucoup de cadres cet été, ça en fait le joueur le plus important de l'effectif ?
Moi, je pense. Je pense que c'est le joueur qui fait le plus de différence en fait d'une saison à l'autre. Voilà. C'est la saison dernière, c'était en défense que Lyon pêchait, et là cette saison, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Lyon peut enfin subir un peu le poids du match, enfin choisir de subir le poids d'un match sans concéder trop de situations. Alors que la saison dernière, même dans les matchs où il était ultra dominateur, l'OL était capable de se faire trouer 5 fois en 10 minutes. Par n'importe quelle équipe.
Oui, la saison dernière, Lyon a la 3e attaque, donc ça c'est bien, mais seulement la 10e défense. Donc c'est vrai que c'était un petit souci.
Mais oui, ça c'est assez invraisemblable que toutes compétitions confondues, l'OL ait marqué 115 buts la saison dernière et que presque personne n'ait pu le remarquer parce que sa défense était calamiteuse. Toutes compétitions confondues, je crois que Lyon a pris plus de 70 buts, 73 ou 75, j'ai plus le chiffre en tête. C'est juste affreux pour n'importe quel entraîneur.
Ça fait beaucoup, oui. Parce que déjà, rien qu'en Ligue 1, il y en avait 48. Donc pour une équipe comme Lyon qui vise le podium tous les ans, ça complique la tâche un petit peu. Du coup, pour cette année, c'est quoi les points forts, selon toi, de cette équipe lyonnaise?
Les points forts, c'est une capacité à être dangereux offensivement en n'importe quel moment, avec beaucoup de talent individuel, avec le talent de Traoré, avec le talent un peu plus atypique de Mariano, qui pour moi fait penser un peu au Papin de 86, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à jouer avec les autres, que les autres vont avoir du mal à le trouver, mais il a une vraie qualité dans la surface. Et puis avec Fekir, qui est revenu à un niveau assez incroyable. Bon, je suis un peu plus circonspect pour Memphis Depay, mais globalement, voilà, je pense que la force, c'est de pouvoir être dangereux à tout moment et de pouvoir mieux subir le poids du match. Donc c'est vrai que les Lyonnais veulent changer de philosophie, ils veulent jouer un peu plus bas, avoir un peu moins de possession et contrer. Je pense qu'effectivement, ils ont l'équipe pour ça.
Et alors si les forces offensives restent plutôt bonnes, on va dire, et que Lyon s'est renforcé défensivement, il n'y a plus de points faibles alors dans cette équipe?
Il y a toujours, je pense qu'il y aura toujours des limites en qualité. C'est-à-dire que le point faible, c'est que l'avant-centre n'est pas aussi fort que la Cazette, que le nouveau milieu, que ce soit Ndombele ou Papchek Diop, il ne sera pas aussi fort que Tolisso. Voilà, ça sera, et qu'il y aura peut-être moins de solutions de remplacement si Fekir ou Touzard ont un souci. Donc voilà, je pense que si, il y a des points faibles, mais c'est une équipe qui semble au moins avoir résolu son problème défensif. C'est-à-dire qu'elle a perdu quelque chose d'un côté, elle a récupéré quelque chose de l'autre. Il faut voir comment se fait l'équilibre sur la durée.
Même si c'est facile de dire ça, est-ce que le vrai point faible de l'OL, c'est pas son banc? Donc quand je parle du banc, c'est Bruno Genesio et la profondeur de l'effectif aussi.
Non, moi je passe toujours pour un pro Genesio. J'assume le fait de pas hurler avec les loups parce que je vois pas beaucoup de différence entre lui et les autres. Je vois pas en quoi il serait inférieur aux autres. Donc non, moi je trouve pas du tout que les directions qu'il prenne soient un handicap. Il a eu beaucoup de mal la saison dernière à trouver des équilibres parce que peut-être qu'il n'avait pas non plus le matériel, mais il a fait des erreurs, bien sûr. Je pense que l'instabilité défensive lui est largement imputable. Mais ce qu'il veut faire cette année, je trouve que c'est assez compréhensible, assez visible. On comprend très bien là où il veut en venir. Donc moi, non, ça me semble pas un handicap rédhibitoire. Après, sur le banc au niveau des solutions, non, Lyon, quand même un bel effectif, ça reste le deuxième budget de la Ligue 1, même
bien
si
sûr,
budget
bien
de
sûr.
Monaco. Le budget de Monaco est hors catégorie à cause de la fiscalité sur les joueurs étrangers et à cause d'une opacité qui est liée à la principauté. Mais au niveau de l'effectif, il y a beaucoup de solutions. On va dire tous les postes sont doublés et certains sont triplés. Donc il y a beaucoup plus pauvre que cette OL-là.
Et alors donc du coup, puisque l'effectif est bon, que certains points faibles ont été gommés, voire quasi gommés, que les points forts sont peut-être un tout petit peu moins forts, mais qui restent quand même assez bons. Quelles ambitions tu vois pour cette OL-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent légitimement espérer?
Mais, de toute façon, les ambitions de Lyon, c'est de finir sur le podium. Et là, pour le coup, si Lyon n'est pas sur le podium, ça sera un échec. C'est-à-dire que ça peut arriver une fois, la saison dernière, parce que on va dire que les trois équipes de tête ont été dans un rythme absolument historique. Jamais un troisième avait un tel nombre de points. Avec son total de points, Nice aurait été champion peut-être une année sur trois depuis 20 ans. Donc voilà, là c'était particulier. Mais cette année, Lyon doit absolument être sur le podium. Je ne sais pas dans quelle mesure les Lyonnais vont pouvoir disputer la deuxième place à Monaco, si on accepte l'idée que Paris sera irrémédiablement champion de France. Mais ensuite, les Lyonnais doivent finir devant Marseille, ils doivent finir devant Nice, devant Lille, devant Saint-Étienne, devant Bordeaux, devant Marseille. C'est à la fois l'objectif de Lyon, et puis c'est à la fois le niveau, c'est le niveau en deçà duquel les Lyonnais n'auront pas le droit de descendre.
Oui, parce que Marseille, c'est le, on va dire, l'adversaire annoncé pour cette fameuse lutte à la troisième place. Donc, tu vois Lyon vraiment au-dessus de Marseille et de voir avoir cette troisième place, pas facilement, puisque ça reste du foot et que voilà, on sait jamais ce qui se passe, mais tu vois Lyon au-dessus.
Je prévois pas que Lyon soit au-dessus de Marseille, je dis juste que les Lyonnais ont l'objectif et même le devoir de l'être. Je trouve qu'ils ont un effectif quand même plus complet, plus profond et plus riche que les Marseillais, ils ont plus de solutions, ils ont plus de talent à certains postes, alors pas à tous, mais plus de talent à certains postes. Oui, je pense que Lyon doit finir devant Marseille. Si les Lyonnais finissent derrière Marseille, ça sera un échec de la saison et ça. Et je pense que ça sera quelque chose dont Bruno Genesio aura sûrement du mal à se remettre, parce que je pense qu'effectivement ça s'arrêterait là et qui remettrait en cause le on va dire, la politique de recrutement de l'été, oui, probablement.
Et puis financièrement, ça deviendrait compliqué sans la manne de la Ligue des Champions, parce qu'il y a des investissements qui ont été faits cet été quand même, même s'il y a eu des ventes.
Oui, mais alors le problème, c'est qu'en vendant Corentin Tolisso, ça rapporte plus d'argent que de se qualifier pour la Ligue des Champions. Le marché des transferts est devenu tellement fou qu'on se dit d'ailleurs a posteriori que Lyon a peut-être vendu trop tôt
dans l'été.
Et qu'en attendant un petit peu, ils auraient pu avoir plus encore pour Lacazette et Tolisso, qui sont pourtant respectivement le plus gros transfert de l'histoire d'Arsenal et le plus gros transfert de l'histoire de la Bundesliga. Donc ça dit un petit peu la folie de l'été. Mais oui, je pense qu'au niveau financier, Lyon a besoin de la Ligue des Champions pour entretenir son cercle vertueux qui est lié à l'utilisation de son nouveau stade, qu'il a régulièrement refinancé d'ailleurs depuis la construction.
Bon, pour finir sur une belle note, est-ce que tu as en tête une anecdote marrante que tu as vécue depuis que tu suis l'OL ? Donc il doit y en avoir des millions, mais est-ce qu'il y en a une là comme ça qui te vient en tête ?
Une anecdote. Bon, il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être une qui concerne les notes. C'était il y a très longtemps en Coupe de France, genre en 88 ou 89, donc c'est vraiment au début. Et Lyon devait jouer en huitième de finale contre Toulouse. Comme ils étaient en Ligue 2, c'était un peu le match de l'année. Et trois jours avant, ils vont jouer à Ajaccio. Les Lyonnais jouent pas, ils se cachent tous, ils veulent pas jouer, ils font 0-0. Et du coup, c'était à l'époque au Progrès, j'avais mis trois ballons à tout le monde. Voilà, trois ballons, c'était la note, ça allait sur cinq. Et j'ai mis trois ballons à tout le monde. Et le surlendemain, je suis convoqué par un défenseur de Lyon. Il me dit, ouais, je peux te voir. Je dis, ouais, bien sûr. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, je comprends pas pourquoi tu m'as mis que trois ballons à Ajaccio. Et je dis, parce que c'était une note collective. Il dit, ouais, mais non, parce que je trouve que j'ai été sérieux défensivement, que franchement, j'ai beaucoup apporté offensivement. Je dis, mais j'ai mis trois à tout le monde. Il dit, ouais, mais tu comprends. Si tu mets quatre ballons, le coach, il aurait été obligé de me faire jouer contre Toulouse. Voilà. Une certaine idée de l'influence de la presse dans ce monde impitoyable.
Comme quoi, on en revient à ce qu'on se disait dans notre premier long épisode. C'est le fameux, les notes que les joueurs disent ne jamais regarder. Mais bizarrement, à chaque fois, il y a toujours des histoires là-dessus. Et vraiment, pour conclure, si tu pouvais me donner un mot, je dis bien un mot, pour définir la saison lyonnaise à venir, selon toi, c'est quoi ?
On va dire transition. Qui a double entrée, parce que ça va concerner la nature de leur jeu, beaucoup de contre-attaques, et puis la nature du moment, puisqu'ils passent vraiment ils ont transfiguré un effectif.
Mais écoute, ça me va très bien. Vincent, merci beaucoup d'avoir participé à ce Tour de France des clubs, et puis je tiens à te reféliciter pour ton premier passage dans l'enquête, qui, comme je le disais, est grandement apprécié. Hein, il y a même pas longtemps sur Twitter, il y a un ami de banquette, Monsieur Foot, qui l'a ressorti pour je sais plus quelle critique qu'on te faisait sur le journalisme, etc. Et qui a ressorti cet épisode-là en disant allez l'écouter, comme ça vous comprendrez ce que c'est que le métier de journaliste, etc., etc. Et qui, voilà, comme je te dis, a vraiment été très apprécié. Donc merci encore de l'avoir fait la première fois et d'être venu cette fois-ci.
Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir.
À très bientôt. À l'image de Vincent, je pense que Lyon a effectivement très bien géré son mercato d'été, puisqu'il y avait vraiment une multitude de départs. Il a fait la liste, et donc c'est vrai que c'est beaucoup, et que normalement aucun club classique, on va dire, ne peut survivre à ça, à part Monaco. Donc c'est vrai que voilà, il y a une belle équipe. Je les sens au-dessus de Marseille. Maintenant, comme il le disait aussi, au milieu, ça reste un peu jeune, un peu léger, selon les profils. Donc à moins que Diop soit vraiment une excellente surprise, je pense que Touzard va être un petit peu seul toute la saison, et que forcément il viendra un moment où ça jouera, et où les organismes pêcheront et toutes ces petites choses-là. Et je sais pas, je pense que Bordeaux peut finir devant, Marseille moins, mais voilà, je pense que Lyon se classera tranquillement à la quatrième place. Et on prend maintenant la direction des Bouches-du-Rhône pour aller parler un petit peu de Marseille, de l'OM, droit au but, tout est Chris Waddle, etc. Bon, c'est un petit peu moins bien maintenant, mais ça reste quand même un gros club de Ligue 1. Et pour en parler, je suis accompagné d'Alexandre Jacquin, qui travaille pour la Provence. Alors bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu travailles à la Provence et depuis combien de temps tu suis l'OM ?
Alors moi, je travaille à la Provence depuis 2003. Et on va dire que je suis l'OM depuis 2009, sachant que je suis allé progressivement jusqu'à 2011, mais à partir de depuis 2011, je les suis au quotidien, quoi. Voilà.
Donc on va dire que tu connais quand même bien les dessous du club, les arcanes, les joueurs, etc. Donc tu as un œil aiguisé là-dessus.
J'ai vécu pas mal de crises en plus.
Plus facile d'avoir des crises à Marseille qu'à Nantes, par exemple.
Oui, en plus il y en a eu beaucoup depuis 2011, quoi. Donc du coup, où j'ai commencé la première, enfin, j'ai commencé mes premiers papiers, j'ai été fait au moment du départ de Pape Diouf, de l'Église, quand Vincent Labrune a tout fait pour qu'il s'en aille. Donc, ouais, je connais un peu les crises, ouais.
Non, en parlant de, on n'est pas tout à fait encore dans une crise, mais ça peut venir. Qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel?
Alors, l'effectif actuel, si on regarde froidement, qu'on regarde vraiment sur le papier ce que ça donne, il est cohérent, il est bien construit. Il y a les profils des recrues correspondent vraiment au CV et à ce dont Rudy Garcia avait besoin. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de trentenaires, de joueurs de 29 ans, 30 ans. Alors c'est ce qui est paradoxal, c'est que les nouveaux dirigeants de l'OM veulent faire sont là sur du long terme. Ils le disent et le répètent assez souvent. Le projet OM Champions, ce fameux Champions Project, c'est un projet, c'est un plan qui est sur plusieurs années. Mais ils ont misé sur des joueurs, ben comme Adil Rami, 31 ans, comme Luis Gustavo, 30 ans, comme Valère Germain, bon 28 ans, lui il est un petit peu plus jeune, comme Mitroglou, 29 ans, sur des joueurs qui doivent être opérationnels de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ces joueurs-là ramènent le club en Ligue des Champions, parce que cette Ligue des Champions sera vitale financièrement dans les années à venir. Donc c'est un projet qui est censé être sur le long terme, et on voit qu'il y a quand même des risques qui sont pris à court terme, parce que si cette génération-là ne marche pas, ce sont des joueurs qui, quand même, dont les indemnités de transfert n'ont pas été très élevées, et qui ont en revanche des gros salaires. Si ça ne marche pas maintenant, ça risque de compliquer par la suite.
Derrière. Ouais. Voilà. Et dans tous les, parce que cet été, y a eu pas mal d'arrivées, de départs, etc. Pour toi, le départ qui fait vraiment mal, c'est lequel ?
Avec le scénario qu'on a vu tout durant tout l'été, le départ qui fait vraiment mal, c'est celui de Bafétimbi Migomis, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de déclarations peut-être maladroites, enfin sans doute maladroites de la part de Franck McCourt et un peu aussi de la part de Jacques-Henri Hérault. Les supporters s'attendaient à un grand attaquant. Alors c'est un terme que le président de l'OM ne supporte pas, mais s'attendait vraiment à une pointure internationale à ce poste-là, et même Bafétimbi Migomis lui s'y attendait. Donc c'est pour ça que lui il avait pris des devants en disant moi je veux pas être une doublure. Donc tout le monde a pensé, s'est dit bon, Bafétimbi Migomis c'est la fin de son prêt, l'OM ne va pas le conserver, il va partir, c'est ce qui s'est produit, mais tout le monde
ils vont prendre du lourd derrière.
Or il se trouve que le lourd, il a mis du temps à arriver, et il se trouve que le lourd c'est Kostas Mitroglou. Alors sans remettre en cause ses qualités, sans remettre en cause ses stats, il a d'excellentes stats. On peut aujourd'hui se dire que Kostas Mitroglou a de plus que Bafétimbi Migomis dans la mesure où en plus il y a un transfert de 15 millions d'euros qui a été payé. Donc aujourd'hui, peut-être que si l'OM avait simplement fait des efforts pour donner le salaire que souhaitait Bafétimbi Migomis, peut-être que l'OM aurait vécu un été un peu moins compliqué, parce qu'en fait, il y a eu des bons résultats cet été, mais il y a eu toujours cette attente, et il est où ce grand attaquant qui doit remplacer Gomis? Il y avait Valère Germain, mais il devait y avoir un autre attaquant, un grand, costaud, puissant, athlétique, qui entre bien dans le schéma de jeu de Rudy Garcia. Et il se trouve que cet attaquant, il est arrivé en fin de semaine dernière, il n'a pas encore joué, pour l'instant, il est blessé. Donc, vraiment, la recrue le départ le plus problématique, c'est vraiment celui de Gomis, parce que aussi, il avait cet état d'esprit, c'était le capitaine, et c'était vraiment un
Il
a fait une belle saison, il a marqué 20 buts, il aimait l'OM, c'était un exemple. Il est arrivé à un moment donné où le club n'était pas encore vendu, il savait pas ce que le club allait devenir, il était là, il a fait le taf, il a fait le boulot, il a fait même plus que ce qu'il devait faire dans l'investissement personnel, et vraiment son absence va peut-être être pesante cette saison.
Et de l'autre côté alors, l'arrivée qui fait vraiment du bien, d'après toi, c'est laquelle ?
Pour l'instant, je vais dire que l'arrivée, enfin, qui est vraiment peut-être pas une arrivée, mais vraiment la recrue qui a porté le plus de points pour le moment, c'est Steve Mandanda. Et c'est un peu aussi paradoxal, parce que Steve Mandanda, il était déjà là, il est parti pour 2,5 millions d'euros il y a un an à Crystal Palace, il revient pour 2 millions d'euros plus bonus, donc à la fin peut-être que l'OM l'aura payé plus cher que ce qu'il avait vendu l'été précédent, mais il se trouve que voilà, il était parti, il a repris sa place, il a fait gagner des points. Dans l'esprit, il y a beaucoup de joueurs comme Florian Thauvin qui s'entendent très bien avec lui. Il incarne vraiment le passé, le présent et maintenant peut-être le futur de l'Olympique de Marseille. Alors on aura beau dire aussi, c'est vrai que ça manque un peu d'idées d'aller rapatrier le gardien qui a été recruté à l'époque par Pape Diouf. Je veux dire, il a quand même connu Diouf, Dacier, Labrune.
Ça fait un petit moment qu'il est là.
En président. Donc lui, dans le symbole, c'est lui la recrue. il me semble la plus importante, même si Valère Germain et Adil Rami sont pas mal pour le moment. Pour le moment, ils ont fait un bon départ.
C'est vrai. Et dans les points forts, alors, qu'est-ce que tu mettrais, puisque là tu me parles de Rami et de Mandanda, ben, par exemple. Donc, est-ce que la défense est un des points forts de l'équipe ou pas, d'après toi?
Pour l'instant, clairement non. Pour l'instant, elle l'a pas démontré parce que justement, Adil Rami était un peu seul en termes de recrues. Je pense que le point fort de cette équipe, il reste quand même le secteur offensif avec Florian Thauvin, avec Dimitri Payet de l'autre côté. Il y a des automatismes avec Maxime Lopez et Morgan Sanson une cran plus bas. Même si encore une fois, voilà, le buteur a changé, donc on ne sait pas si Valère Germain et Kostas Mitroglou seront aussi prolifiques que l'était Bafé Gomis. Mais en termes de qualité, on a deux internationaux, Thauvin et Payet. Ils peuvent faire la différence seuls à tout moment dès qu'il y a une situation qui est bloquée. C'est les deux points forts de l'OM sont vraiment Payet et Mandanda. Je parle sur le plan du jeu, je parle pas de Steve Mandanda, mais eux on sait que si le match est bloqué, ils vont pouvoir faire la différence à tout moment. Après, il faudra voir sur les recrues, sur Emen Abdennour, savoir dans quel état physique il est, puisque la charnière Rami Abdennour sera aussi l'un des points forts de l'OM dans les mois à venir. Mais pour l'instant, bon, Rami s'est blessé, Abdennour arrive, ils n'ont pas encore joué l'un avec l'autre, mais ça. Dans l'idée, c'est pas mal. Cette charnière, elle est pas mal.
Ah oui, Abdennour, s'il revient à un bon niveau physique, c'est un très bon joueur. Ouais.
Il faut absolument qu'il revienne au niveau, son niveau de Toulouse. Le niveau qu'il avait quand il est passé de Toulouse à Monaco, puis ses débuts à Monaco, il était vraiment exceptionnel. Oui. Après, il a un peu baissé physiquement, il a eu des blessures. À Valence, c'était pas trop ça. Mais le souvenir qu'en ont les supporters de l'OM, notamment parce qu'il avait fait une énorme prestation une fois avec Toulouse au stade Vélodrome, c'est un roc, quoi, c'est un rocher, mais on l'a pas encore vu à l'œuvre, donc on sait pas, on a tellement vu de joueurs qui étaient précédés d'une flatteuse réputation à Marseille qui n'ont rien donné. Non, mais c'est vrai. Et de joueurs dont on attendait rien et qui finalement se sont révélés, qu'on peut pas savoir ce qu'il va donner. Mais dans l'idée, c'est pas mal d'aller chercher un joueur comme ça. Le seul regret qu'on puisse avoir, c'est qu'il soit venu au lendemain de la gifle reçue à Monaco, que les dirigeants aient réactivé cette piste à ce moment-là et qu'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il fallait absolument renforcer cette défense qui est composée de joueurs, il faut quand même le dire, qui n'ont pas le niveau. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas le niveau, comme Obochan, comme Doria, à un degré moins certique parce que lui, c'est un problème physique. Mais pour l'instant, il n'a pas encore récupéré son niveau de Bordeaux. Donc il y a plein de points positifs quand même dans cette équipe.
Mais donc dans les points négatifs, pour l'instant, en attendant voir ce que donne Abdennour, ça serait plutôt la défense.
Voilà, là je vais poursuivre sur la défense parce qu'on a le vrai point négatif, c'est le nombre de joueurs professionnels dans cet effectif. Il y en a 27. Alors comment faire travailler les 27? C'est pas évident à l'entraînement. Donc ça va générer forcément des tensions. Je veux dire des Rod Fanny qui ne jouent plus, des Henri Bédimo qui ne jouent plus, qui sont toujours dans l'effectif, même si ce sont des joueurs avec une personnalité exemplaire qui cause jamais de problème. Quand on a des joueurs comme ça dans l'effectif qui s'entraînent et qui ne jouent pas de match, forcément ça pèse un peu. Et d'autant que à ceux-là vont se rajouter des joueurs qui seront sur le banc ou qui ne joueront pas. On va avoir des Doria, des Obochan, des Bouba Camara qui a signé son contrat. Et Rudy Garcia, s'il a envie demain de jouer en 8-1-1, bon, il a joué avec 6 défenseurs à Monaco, mais s'il a envie d'en mettre 8 un jour pour blinder la défense, il peut le faire. Je veux dire, il a 4 arrière-gauche, c'est du jamais vu. Il a Patrice Evra, Jordan Amavi, Henri Bédimon et Thomas Obochan. C'est du jamais vu d'avoir 4 arrière-gauche, on voit pas l'intérêt. Et de l'autre côté, c'est totalement déséquilibré parce qu'il a qu'un seul latéral droit dans la personne d'Hiroki Sakai. Donc, l'an dernier, Rudy Garcia, justement, s'était plaint et avait dit, à propos de Franck Passy, il avait dit, je comprends pas cet effectif, il a été construit en dépit du bon sens. Force est de constater que cet été non plus, il y a des choix qui ont été faits qui sont pas non plus les plus astucieux qui soient. Voilà, il y a beaucoup trop de défenseurs centraux, beaucoup trop de latéraux gauche, et à l'inverse, il manque des milieux de terrain parce que.
C'est le truc, c'est que.
Il y a Luis Gustavo qui est par exemple tendu contre Rennes le week-end prochain et qui n'a pas de doublure. La seule doublure, c'est Certig, mais dont on sait que Rudy Garcia ne veut plus le faire jouer au milieu. Si Sanson et Lopez sont blessés, il n'y a que André Franck Zambouanguissa, dont on sait aussi qu'il a affiché certaines limites la saison passée. Donc oui, l'effectif, il est vraiment pas assez équilibré. Ça, c'est le gros point faible de l'OM, à mon avis.
Mais du coup, comment est-ce que tu vois la saison à venir de Marseille pour toi? Quelles ambitions ils peuvent réellement avoir?
Je pense que la quatrième place est largement jouable. Voilà, faire mieux. Leur ambition, et alors ils mentent pas, l'ambition des dirigeants, c'est de faire mieux que la saison passée. Ils disent tout ça, Rudy Garcia dit cela, Jean Guérou dit cela, c'est faire mieux que la saison passée. Donc faire mieux, être quatrième, c'est faisable. Avec cet effectif-là, il y a quand même des joueurs d'expérience, c'est largement faisable. Troisième, ce sera pas évident parce qu'il y a quand même des clubs comme Lyon, comme Saint-Etienne, comme Nice qui peut-être en reviendra, comme Bordeaux qui est sérieux d'après moi aussi. Ça va pas être facile. Faudra voir. Alors il y a un facteur chance aussi dans toute cette histoire parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de trentenaires et il y a déjà pas mal de blessures. Voilà, on a vu Rami, bon c'est un problème de pectoral. Si par chance tous ces joueurs-là sont épargnés par les pépins physiques, ça devrait aller, mais Kostas Mitroglou arrive, il est blessé, donc il ne jouera sans doute pas contre Rennes, il a un problème musculaire. Si à la fin on en arrive à ce qui est trop de blessures et trop de problèmes physiques, ça risque de poser un sacré problème pour la suite. Donc moi je pense que viser la quatrième place, c'est raisonnable. Aller sortir des poules de la Ligue Europa, c'est même pas raisonnable, c'est obligatoire, enfin, avec les adversaires qu'il y a, Victoria Guimarães, Konyaspor et Salzbourg. Et aller loin dans une coupe, c'est faisable aussi. Après, on ne pourrait pas espérer monts et merveilles non plus de cette équipe. Or, il se trouve, comme je le disais tout à l'heure aussi, pour l'avenir du club, il faudrait aussi qu'elle retrouve la Ligue des Champions assez rapidement. Est-ce qu'elle en est capable? Je ne suis pas sûr cette saison.
Non, mais s'il y a une coupe qui tombe et effectivement voilà une qualification directe en Europa League et voilà. Et un bon parcours en Europa League, c'est déjà pas trop mal et encourageant pour la suite.
Si l'OM fait mieux que la saison passée, ce sera déjà un pas en avant et une progression. Ils ont mis des moyens, il y a des joueurs expérimentés quoi, je veux dire des Adil Rami, même Patrice Evra, même si physiquement il est un peu dans le dur, ce sont des joueurs qui ont l'expérience, qui peuvent tirer tout le monde vers le haut. Il reste à savoir voilà s'il y aura pas trop de pépins physiques durant toute la saison.
Bon, pour finir, il faudrait que tu me racontes, si tu en as une comme ça en tête qui te vient, l'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis l'Olympique de Marseille.
Alors, les anecdotes à Marseille, il y en a tous les jours entre les... Non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire, oui. En ressortir une comme ça, entre ce que disent les... Je vais vous dire, peut-être je vais en dire une comme ça, mais entre ce que disent les présidents en « on », entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'ils disent en conférence de presse et ce qu'ils disent en off 5 minutes après, il y a souvent un monde de décart. Là, comme ça, là, me rappeler quelques... l'anecdote la plus marrante... on rigole pas tous les jours. Hein. Oui, alors non, mais on se marre souvent avec des histoires de supporters qui sont quand même des fois plutôt marrantes. Mais les dirigeants, on n'a pas trop rigolé ces dernières années, notamment avec la période de Vincent Labrune. Mais alors une anecdote, sortir une anecdote comme ça. Bah oui, alors l'anecdote la plus marrante. Elle fera pas rire l'intéressé, mais l'anecdote, ça restera quand même le coup du billard de Vincent Labrune. Donc je me rappelle plus le match, c'était au Rennes Bordeaux, je crois. Il y a au plus fort de la crise avec les supporters, donc en cours de saison 2015-2016, les supporters sont enragés, ils attendent Vincent Labrune en bas à l'extérieur du stade sur le parvis Jean-Bouin. Ils attendent, nous on les voit d'en haut de la tribune, on se dit oh là là, ça va mal tourner, il y a intervention des forces de l'ordre, il y en a qui essayent de rentrer dans le hall et on fait la conférence de presse de Mitchell et à l'issue de cette conférence de presse, un de mes collègues et moi on entend du bruit. Il émane d'une salle juste à côté de la salle de conférence de presse. On comprend pas. Et moi, je pars à ce moment-là parce que je dois aller en zone mixte et mon collègue reste. Et en fait, après, moi, je reviens. Et en fait, c'était Vincent Labrune qui était en train de jouer au billard. Donc, on l'a raconté dans la Provence, mais c'était marrant de l'écouter parce qu'en fait, bon, il se trouve que bloqué dans le stade, il ne savait pas quoi faire. Il a proposé à ses collaborateurs, à certaines des amis qui étaient avec lui et qui l'avaient invité de faire une petite partie de billard. Il se trouve que lui ne savait peut-être pas que nous, on entendait tout. Et on entendait tout. On entendait des gens rigoler, quoi, en fait, en train de jouer au billard, mais dans une ambiance assez détendue, mais c'était surréaliste, parce que à l'extérieur du stade, on avait des gens qui attendaient pour l'insulter, mais c'était quand même assez chaud, quoi. Et lui, pendant une heure, il a joué au billard avec ses collègues, on entendait
en toute détente.
Ça, c'est l'anecdote la plus marrante, et au final, je pense que, bon, j'en ai pas parlé avec lui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles, mais je pense que Vincent Labrune aujourd'hui il doit peut-être en rigoler, donc c'est pour ça que je dirais que c'est l'anecdote la plus marrante et ça fait partie du charme de l'Olympique de Marseille.
Ben, va très bien. Et vraiment, merci. Pour conclure, oui. Un mot, je dis bien un mot, pas une phrase, pour définir la saison à venir selon toi. Qu'est-ce que tu choisis comme mot?
Incertaine.
Pas
mal.
Incertaine.
Ouais, incertaine parce qu'il y a beaucoup de, facteurs, il y a beaucoup de risques. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal tourner.
Mais écoute, ça me va. Alexandre, merci beaucoup d'avoir
merci
participé
vous, ouais.
Et puis d'avoir donné toutes ces petites infos et puis ton œil sur l'Olympique de Marseille puisque tu es un fin connaisseur de l'OM. Donc merci à toi et puis à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Un peu comme Alexandre, j'ai du mal à voir Marseille finir troisième. De toute façon, si vous avez écouté l'épisode Paris du Mercato, pour moi, cette année, l'équipe qui peut être troisième et surprise, c'est Bordeaux. Donc je pense que Marseille va se battre un petit peu avec Lyon sur ces places-là, sur la 3, enfin Lyon et Bordeaux sur la place 3, 4, 5. Voilà, Marseille a un bel effectif sur le papier, comme le disait Alexandre. Mais au milieu, c'est trop léger pour moi. Même si Abdennour revient bien, que Rami revient bien, que Amavi revient bien. Luis Gustavo est beaucoup trop seul. Et après, sur les côtés devant, oui, il y a de la qualité, mais ça redéfend pas assez, etc. Enfin, je pense que c'est ce qui va gêner un petit peu. Et puis aussi le Rudy Garcia, qui est assez peu ambitieux dans le jeu, contrairement à ce qu'on a connu de lui. Et voilà, je vois pas Marseille finir troisième, mais plutôt 4-5e en fonction de ce que fera Lyon. Et maintenant, on file en direction de la Moselle pour aller parler du FC Metz, le club d'un joueur qui nous a fait tous sourire ou vibrer l'année dernière, Cheick Diabaté, qui malheureusement n'y est plus. Bon, après, il y a eu d'autres choses, il y a eu les PP Flingueurs, il y a eu plein de belles petites équipes à Metz. Et pour parler de l'effectif actuel et du Metz 2017-2018, je vais être accompagné d'Angelo Salemi, qui travaille pour le Républicain Lorrain. Salut Angelo.
Bonjour.
Alors, avant de commencer, depuis combien de temps est-ce que tu travailles pour le Républicain Lorrain et depuis combien de temps tu suis le FC Metz?
Alors, je travaille pour le Républicain Lorrain depuis 3 ans et je m'occupe du FC Metz plus régulièrement depuis 1 an et demi peut-être. Oui, 1 an et demi.
Bon, donc, tu as eu le temps d'un petit peu de t'acclimater au club.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel?
Alors, l'effectif actuel, c'est un petit peu une interrogation parce que Metz a eu un mercato plus mouvementé que prévu. Il y a eu une quinzaine de départs, quasiment autant d'arrivées. Et il y a eu également beaucoup de mouvements très tardivement. Du coup, par rapport à ça, c'est un petit peu l'inconnu. Comme vous l'avez vu, Metz a eu un début de saison compliqué. Ça s'est traduit par 4 défaites. Et voilà, donc le FC Metz veut jouer le maintien, c'est évident.
Et pour toi, dans cette quinzaine de départs, celui qui fait le plus mal, c'est lequel?
Ah, forcément, c'est celui d'Ismaïl Assar pour Rennes. Ismaïl Assar, c'est la pépite qui était venue de Génération Foot, donc l'académie que le FC Metz possède à Dakar. Et donc c'était la pépite, c'était celui qui dynamitait le jeu la saison dernière. Et il a malheureusement dû partir pour Rennes, une offre à 17 millions d'euros qui était malheureusement
impossible de refuser.
Pour un club comme le FC Metz, 17 millions d'euros, ça ne se refuse pas. Avec les bonus, ça peut même monter jusqu'à 30 millions d'euros. Le FC Metz avait besoin de cet argent et a dû donc laisser partir ça.
Et dans la quinzaine d'arrivées, l'arrivée qui fait vraiment du bien, c'est laquelle pour toi?
Alors, à l'heure actuelle, le joueur qui est censé mener l'attaque, c'est Nolan Roux. On a vu sur ses 4 premiers matchs, il était un petit peu isolé devant, mais c'est un joueur qui garde beaucoup de ballons. C'est le seul joueur à avoir marqué pour le FC Metz pour le moment. Et donc pour l'instant, c'est lui un petit peu la tête de gondole du recrutement messin.
Après, il devrait être un petit peu aidé, en tout cas, par Emmanuel Rivière aussi.
Voilà, Emmanuel Rivière. Après, on ne sait pas forcément si l'entraîneur Philippe Hinsberger a l'intention de jouer avec 2 points, puisque Philippe Hinsberger adepte énormément du 4-2-3-1. On imagine Rivière peut-être remplacer Roux ou le suppléer en fin de match.
Oui, une fois que les défenses seront un petit peu fatiguées, ouais. Il pourra faire parler sa vitesse.
Voilà. Et sinon, dans le dernier jour du mercato, il y a eu d'autres arrivées, il y a eu Dossévi notamment, l'ancien Valenciennois en provenance du Standard de Liège. Peut-être que lui pourra aider dans les transitions offensives au poste d'ailier.
Et le joueur le plus important de l'équipe, de l'équipe actuelle, c'est qui pour toi?
Je dirais que c'est Renaud Coad, parce que c'est une vraie plaque tournante. À Saint-Étienne, il jouait plus milieu récupérateur, et Philippe Hinsberger en a fait son vrai meneur de jeu. Dans l'effectif actuel, c'est peut-être le joueur qui a le plus de ballons, et il a une vraie importance dans le système de jeu.
Et alors, les points forts de l'équipe, c'est quoi?
Alors, par rapport à la saison dernière, Metz garde mieux le ballon, parce qu'on se souvient que la saison dernière, Metz a pris beaucoup de raclées. c'était parce que Metz n'arrivait pas à garder le ballon, Metz prenait des vagues. Et cette saison, on voit que l'équipe tient mieux le ballon, arrive mieux à construire. On a vu que Metz a pris relativement peu de buts depuis le début de la saison.
Oui, ce qui est un peu mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, Metz a pris quand même 72 buts, ce qui en fait la 20e défense de Ligue 1. C'est vrai que ça fait beaucoup.
Voilà.
Et donc cette année, puisque ça a été amélioré, c'est quoi les points faibles alors?
Sur les 4 premiers matchs, c'était vraiment l'animation offensive. En l'absence de Sarr, ça manquait de percussion sur les côtés. Il n'y a pas de joueur qui possède ce profil dans l'effectif actuel. En fait, Metz doit repenser son jeu, tout simplement. C'est vraiment une autre façon de jouer. La saison dernière, c'était beaucoup sur le contre, avec les fulgurances d'Ismaël Assar. Cette saison, il n'y a plus Ismaël Assar, donc il faut trouver une autre façon de jouer. Et pour l'instant, Metz manque de percussion offensive.
Et pour toi, donc, avec cette nouvelle équipe et ce nouveau style de jeu à trouver, quelles sont les ambitions pour la saison à venir?
Clairement, le maintien. Metz, c'est une équipe qui veut s'installer dans la Ligue 1. La saison dernière, ils ont réussi à se maintenir pour la première fois depuis 2005. C'est vraiment... ça remonte à loin. Et cette saison, l'objectif sera le même. Bon, malgré le départ raté, c'est quand même dans les cordes de cet effectif.
Mais donc, tu penses que ça peut être jouable entre guillemets facilement ou que ça va être compliqué jusqu'au bout comme lors de la saison dernière?
Je pense que ça va être compliqué jusqu'au bout. Comment dire, Metz est quand même bien renforcé par rapport à la saison dernière, même s'il a perdu Ismaël Assar et Thiel Diabaté. Mais Metz va vivre une saison compliquée de toute façon, on sait. Metz jouera le maintien jusqu'à la fin du championnat.
C'est triste. C'est quand même une... Non, mais c'est vrai que c'est un club historique de Ligue 1. Donc, ça serait bien que Metz puisse rester en Ligue 1 encore un petit peu. Puis en plus, rien que pour avoir ramené Cheikh Diabaté l'année dernière, franchement, ça mérite de rester en Ligue 1. L'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis le club, donc depuis un an et demi, c'est quoi?
Là maintenant, je dirais, peut-être le soir de la montée en Ligue 1, c'était un match à Lens. C'était un match horrible parce que Metz était censé monter facilement, puisque Metz avait 6 buts d'avance, je crois, sur Le Havre, et Le Havre qui était 4e. Et donc Metz s'incline à 0, Le Havre mène 5-0 dans le même temps, donc c'était une soirée très stressante. Et c'était une soirée très bizarre, parce qu'au final, on a croisé les joueurs en train de fêter la montée dans les salons VIP, et c'était une grosse ambiance. Je me souviens des joueurs en train de fêter. Je crois que c'était Kevin Lejeune, qui, Vincent Rivière, je ne sais plus, qui avait dit « Eh ben dis donc, on est meilleur ici que sur le terrain. »
C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal.
Ouais.
Et vraiment, pour terminer, si tu peux, un mot, vraiment un mot, pour définir la saison à venir, pour toi, c'est quoi?
Laborieuse.
Ouais. c'est réaliste. C'est peut-être pas sexy, mais c'est réaliste, c'est vrai. Laborieuse.
Voilà.
Bon. Mais écoute, Angelo, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce tour de France des clubs de banquette. Ça a été un plaisir. Pour permettre aux gens qui suivent pas forcément Metz de découvrir un petit peu l'équipe, de savoir quels sont les points forts, faibles, peut-être de leur donner envie de regarder les matchs et de suivre un petit peu les résultats. Donc merci à toi d'avoir participé.
De rien, plaisir partagé.
C'est moi, je te remercie et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Bon, vous l'avez bien compris, pour Rémi, comme il l'a dit, ça va être plutôt laborieux pour Metz, qui doit effectivement repenser tout un style de jeu et qui perd un attaquant qui marquait quand même, qui a fait énormément de bien sur les 6 derniers mois l'année dernière, qui est Cheikh Diabaté, qui peut être peut-être un petit peu marrant à voir jouer avec un corps pas toujours très bien coordonné, mais qui rigole pas devant le but et qui est là pour planter, et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Donc c'est vrai qu'il a manqué, parce que Nolan Roux, c'est pas tout à fait le même délire, hein. c'est pas le même profil. Un Nolan Roux qui met 15 buts sur une saison, j'y crois pas beaucoup. Et un peu comme beaucoup de clubs en difficulté, effectivement, Metz a recruté pas mal de joueurs dans les derniers instants du mercato, notamment Emmanuel Rivière, qui ne joue pas depuis quelques temps, qui est censé apporter son soutien en attaque alors qu'il avait été élu, si je dis pas de bêtises, un des transferts les plus pourris du championnat anglais, etc. Newcastle. Enfin, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Moi, ce qui me fait peur aussi avec Cheikh Diabaté, c'est la perte de Simon Fallette, en latéral droit, qui était très bon, qui apportait justement un peu de derrière avec un apport offensif, avec de la percussion, avec des centres de bonne qualité, ce que fait un peu moins Rivière. Donc je pense que ça va être compliqué, mais malgré tout, je pense que Metz parviendra à se maintenir. Alors en finissant ric-rac et la dernière, peut-être l'avant-dernière journée, mais je pense que ça devrait passer pour Metz grâce à Philippe Hinsberger qui fait un très bon travail depuis qu'il est là. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur Guingamp, Lille, Marseille, Lyon ou Metz. Et vous allez pouvoir encore mieux suivre cette saison de Ligue 1 qui s'annonce passionnante. Merci aussi à Julien Neuville et à Laura Cuissard à la programmation et à la production, à Aurore Maillot-Meyer à la réalisation sonore et au duo Méhari pour le générique original. Même si c'est déjà fini, ne soyez pas tristes, on revient dans une petite semaine pour parler cette fois-ci du meilleur club du monde, l'AS Monaco. Mais aussi, parce que faut partager un petit peu, de Montpellier, de Nantes, de Nice et du Paris Saint-Germain. De beaux morceaux en perspective. En attendant jeudi prochain, vous pouvez profiter de votre temps libre pour recommander Banquette à un ami en lui expliquant pourquoi vous pensez que c'est la meilleure émission de tous les temps et l'aider à l'écouter en lui donnant directement le lien. Vous pouvez aussi nous dire comment vous voyez la saison des 5 clubs dont on a parlé cette semaine, si vous êtes d'accord ou non avec le journaliste concerné et lancer des débats enflammés mais toujours respectueux. Je vous invite donc à nous raconter tout ça sur Twitter, le compte c'est @banquetteNE, ou sur Facebook, la page s'appelle Banquette Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous, Dagemounegou, et vive à Trezegol.